Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère au 88.4 de la bande FM ainsi que sur le canal 8C du réseau numérique terrestre sans omettre notre fenêtre ouverte sur le monde www.vivreensemble.org. Vous pouvez également retrouver nos émissions sur le site du Vivre Ensemble. Parce que j'ai dit deux fois Vivre Ensemble, je sais, c'était le site de Radio Galère, excusez-moi. www.radiogalère.org. Donc le thème de l'émission d'aujourd'hui est militantisme, engagement et légalisation du cannabis. Autour de la table aujourd'hui sont présents Mohamed Ben Saada.
Bonjour.
Bonjour Mohamed. Et Karima Berich, notre passeuse de mémoire.
Bonjour.
À la réalisation et à la conception, Richard Martini et Farid Radrar. Et à la technique, notre cher Sidi Diallo de Radio Galère. Donc cette émission des échos du Grand Saint-Barthélemy se déroule en direct du comité Maméga, mais exceptionnellement un vendredi au lieu de notre fameux dernier jeudi de chaque mois. Merci à toi Sidi de t'être rendu disponible et merci à vous aussi présents aussi d'être là avec nous aujourd'hui. Donc cette émission revêt un caractère particulier puisque nous allons aborder avec notre invité du jour, M. Mohamed Ben Saada, un thème qui touche depuis des années nos quartiers, le cannabis. Mohamed a récemment écrit un livre au sujet de sa légalisation et le livre s'intitule « Legalize it ». Dans un premier temps, notre invité se présentera avant de nous entretenir avec lui sur ce sujet tant controversé, qui est celui de la légalisation du cannabis. Nous profiterons ensuite de sa présence et de son engagement dans tous les domaines, donc aussi bien au quotidien que dans le domaine de la politique, pour qu'il puisse réagir aux interventions des femmes du Grand Saint-Barthélemy qui ont été recueillies lors des événements mis en place dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, qui a lieu, je le rappelle, le 8 mars, mais ces recueils ont été faits le lendemain, le 9 mars, anniversaire de deux compatriotes que je tairai, Karima et Jean-Marc. Oui, je tais, pas vraiment. D'ores et déjà, nous nous excusons de ne pas pouvoir diffuser l'intégralité de ces interventions, mais elles seront disponibles sur notre site vivreensemble.org. Bon, cette initiative a été mise en place par le comité Maméga, les centres sociaux de proximité, également avec nous et l'espace culturel Busserine, avec le concours de la mairie du 13-14. J'ai parlé énormément, je sais. On va se faire une petite pause musicale afin que je puisse reprendre mon souffle. Et on écoute maintenant Michel Jonas, « La drogue m'a mis la main dessus, je suis foutu ».
Les gars, c'est mon histoire, je vous l'avoue. Je vais vous le dire, je vais vous le dire, je vais vous le dire. La drogue m'a mis la main dessus, et je suis foutu.
J'avais un kilo, c'est sûrement la tuberculose. J'ai mal partout. Je dois couvrir quelque chose. Là là et tout, un kangourou en cellulose me dit c'est une fièvre bénigne, mauvais signe. Ah moi je tousse,
ah moi je tousse.
À l'aide après à la rescousse,
à l'aide après à la rescousse.
Est-ce un cancer,
est-ce un cancer?
Y a-t-il quelque chose à faire,
y a-t-il quelque chose à faire?
Là là et tout, un tonneau de bière avec sa mousse dans son froufrou, la mort du signe, mauvais signe.
La drogue m'a mis la main dessus, je suis foutu. La drogue m'a mis la main dessus, je suis foutu.
Toto, Tommy, 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 Teddy, Teddy, Jackie,
Jackie,
Jerry,
Jerry,
Johnny,
Johnny,
Jimmy, Jesse, Jenny, ça allume des feux comme autour de Saturne.
Ce gris vous roulez dans vos doigts et que l'on fume.
Arrêtez tout,
arrêtez,
je suis quelqu'un connu et tout.
C'est quelqu'un connu et tout.
Jonas est un drogué notoire. Oh lui, c'est même pas vrai. Ils m'ont donné un truc bizarre. Monsieur CE, ils disaient que c'est l'eucalyptus.
La drogue m'a mis la main dessus, je suis foutu. Oh, la drogue m'a mis la main dessus, je suis foutu.
La drogue m'a mis la main, la drogue m'a mis la main, la drogue m'a mis la main dessus, je suis foutu.
Voilà. Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Méga sur les ondes de Radio Galère. Chers auditeurs et auditrices, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes en compagnie de notre invité du jour, moi-même Ben Saada, et il y a également avec moi Madame Karima Berriche. Moi, Ben, on va te laisser la parole maintenant pour te présenter.
Tout d'abord, merci Lily, merci Jean-Marc, merci Farid et merci Sidi. Merci donc de m'accueillir dans cette émission. Hein. Comme le comité Méga est une association assez représentative des combats qui se mènent dans nos quartiers populaires, moi je suis très honoré d'être là aujourd'hui et je profite de ma présence dans ces locaux à la Busserine pour rendre un hommage à un militant qui vient de nous quitter. Alors, c'était un très grand militant antiraciste, attaché à la cause africaine, grand écolo par ailleurs. C'est notre ami Jacques Sonsin et je pense que de l'avis de toutes celles et ceux qui sont présents ici, vous allez vous joindre pour rendre hommage à sa mémoire. Il nous a quittés, on lui présente nos condoléances et j'espère qu'on sera digne des combats qu'il a menés. J'ai eu l'illustre honneur de l'avoir sur ma liste en 2020. Donc, avoir quelqu'un comme ça sur ta liste, ça veut dire que tu as la confiance de gens qui ont une valeur inestimable. Et bon, j'espère que les jeunes générations, les plus jeunes que moi, essaieront de lire l'histoire de leurs glorieux aînés pour essayer de faire ne serait-ce que le dixième de ce qui a été fait avant nous. Me présenter, alors c'est peut-être l'exercice le plus difficile pour moi, donc je vais me présenter en tant que militant des quartiers populaires et en tant que militant politique. C'est les deux casquettes que je porte de façon affichée, revendiquée, parce que j'ai toujours cru que cette hybridation entre le militantisme de quartier et le militantisme plus structuré à l'intérieur d'organisations politiques était la solution politique à terme pour l'émancipation, l'épanouissement de nos quartiers populaires, en tout cas celle qui permettait d'objectiver toutes les luttes qu'on mène dans les quartiers en objet politique justement au sein d'organisations politiques et par le biais de la démocratie rendre ses revendications efficiente par l'écriture des lois et par le fait que on est reconnu dans cette société politiquement à partir du moment où on porte vos luttes. Et donc moi je suis un militant des quartiers populaires par le fait que je suis membre de l'association, enfin c'est même pas une association, c'est un collectif Quartier Nord, Quartier Fort. Bon, alors lui il commence à dater un petit peu, hein, je crois qu'on l'a créé en 2009, et je suis membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, donc rien que le titre de cet asso dit à peu près de quoi il s'agit concernant mon engagement. Et par ailleurs, oui, je suis membre de la France Insoumise et j'ai été chef de file au municipal en 2020, j'ai été candidat au cantonal et aux législatives en 2022, l'année dernière, où on est arrivé en tête au premier tour et où on a malheureusement échoué face au Rassemblement National. Et on se retrouve avec une députée Rassemblement National, madame, je ne vais pas citer son nom, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on ne sait pas où elle est passée depuis l'élection. Donc, on est dans une circonscription qui est entre les mains du Rassemblement National, ce qui fait que mon engagement antiraciste s'en trouve encore plus aiguisé et sans amertume, je dis ça, mais je crois que le jour où j'aurai réussi quelque chose, c'est quand les gens, et pas de mon fait seulement, hein, parce que je pense que c'est une action qui est toutes les gouttes d'eau finissent par former des fleurs, mais en tout cas, le jour où nos quartiers comprendront la force et le poids qu'ils pèsent en réalité électoralement, on changera beaucoup de choses. Et je crois que même des engagements comme le mien seront plus nécessaires parce qu'il n'y aura plus besoin de se plaindre. Hein, parce qu'en réalité, on parle toujours de clientélisme. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, l'électoralisme, de la façon dont il est utilisé en politique, en macro-politique au niveau national, ça donne une forme de flatterie d'un certain type d'électorat. Ce qui a fait la différence, par exemple, sur cette élection-là, c'est que les gens qui auraient dû voter pour moi, pas parce que je m'appelle Mohamed Ben Saada, mais parce que je porte des combats qui sont les leurs, ne se sont pas mobilisés suffisamment. Par contre, des gens qui ne connaissaient absolument pas La candidate du Rassemblement national, je suis presque persuadé qu'on met un globe comme je vois devant moi, un portable ou une plante verte, elle aurait été élue au deuxième tour parce que c'était le Rassemblement national. Parce que des gens se mobilisent à minima, même s'ils sont déçus, même s'ils pensent que la politique ça sert à rien, ben, au final oui ça sert. Ça sert parce que leurs enfants finissent par avoir des écoles de meilleure qualité, parce qu'ils ont des hôpitaux qui se font dans leur quartier et pas dans les nôtres, parce qu'ils ont des routes qui sont, entre guillemets, goudronnées comme il faut, parce qu'ils ont des services publics qui ne disparaissent pas. Et c'est un petit peu, entre guillemets, la double peine qu'on subit dans les quartiers populaires. Donc tout mon combat, moi, il tourne autour du fait que je ne suis pas là pour conscientiser, je suis juste là pour dire aux gens, OK, peut-être que le personnel politique ne vous convient absolument pas, ben, changez-le. Et pour le changer, il faut que vous alliez voter.
Du coup, depuis quand est-ce que tu es engagé dans cette vie et ces combats ?
De façon informelle, je crois que depuis, je le dis dans le livre, depuis que je suis tombé sur la chanson Zimbabwe de Bob Marley, que je me suis amusé à traduire. Et donc, comme tous les textes de Marley et d'autres groupes de reggae, donc le reggae étant une musique militante extrêmement, extrêmement revendicative, j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de tout de suite avoir une forme de conscience politique, parce que ce que décrivait comme réalité sur le racisme ou sur... alors je ne parle pas du versant panafricaniste qui vient bien après quand on se structure, etc., etc., mais en tout cas sur la justice sociale et tout le reste, que ce soit à Kingston ou à Coro où j'ai grandi, moi je me reconnaissais complètement dans ces textes-là. Donc oui, depuis l'âge de 13-14 ans. Après, concrètement, les premiers assos auxquels j'ai adhéré, ouais, il a fallu attendre 22-23 ans. Donc, vu que j'ai 54 ans, ça commence à faire quelques années.
Effectivement, ça commence à compter, entre guillemets.
Voilà. Merci de le souligner.
Il n'y a pas de quoi. Peut-être que je vais laisser un petit peu la parole à Karima, parce qu'elle te connaît bien aussi. Parce que je pense que Mohamed est très humble et modeste. Est-ce que tu peux compléter un petit peu sa présentation et nous raconter un petit peu de votre rencontre ?
Voilà. Alors, notre rencontre, elle a été dans une situation extrêmement ubuesque, particulière, mais très intéressante. C'était au centre social Agora. C'était à l'époque où on menait une série de rencontres avec l'Union juive française pour la paix, l'UJFP, ou l'Union, oui c'est ça, l'UJFP. Et voilà. Et donc, dans la salle, il y avait énormément de monde, et notamment une ancienne députée, qui était Sylvie Andrieux, et qui était venue en fait plus pour voir ce que ses collègues socialistes qui étaient aussi présents dans la salle allaient dire sur elle et moins entendre la colère de ses électeurs qui ne comprenaient pas son affichage public de soutien à l'armée israélienne au moment où Gaza était sous les bombes de l'armée Tsahal. Donc, c'est 2009 et là, il y a deux personnes qui vont se lever comme un seul homme. C'est donc Mohamed Ben Saada et notre ami... Salim Krapsi, qui vont la mettre mal à l'aise. Et puis, surtout, je me souviens, puisqu'on peut se dire les choses ici autour de cette table, on s'est revus, je crois, une deuxième fois, et puis il m'a demandé c'était quoi mon engagement politique, etc., quel bord, quelle idéologie je me rapprochais, où j'étais intéressée. Et je me suis dit, mais... qui c'est qui l'envoie ce bonhomme pour me poser cette question ? Parce qu'on est toujours suspicieux dans nos quartiers. On ne fait pas confiance dès le premier tour. Et puis, je ne sais pas, peut-être son visage, je sais pas, me faisait. Peut-être que son visage était bienveillant. Je ne sais pas, j'ai senti quelque chose chez lui. Puis je lui ai dit, je suis marxiste-léniniste. Il m'a dit, moi aussi. Il dit, c'est une belle rencontre déjà sur la base idéologique. Et puis très rapidement, c'est un homme politique, Mohamed. Bon, je vais revenir à Mohamed, c'est un homme politique. C'est un militant et c'est un homme politique. Et c'est comme une pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever un aspect de ce qu'il est dans son engagement. Son militantisme nourrit son engagement politique et son engagement politique nourrit aussi son militantisme. Il y a toujours un aller-retour. Donc c'est de l'homme politique que j'ai aperçu premièrement, même si... c'est par le volet militant qu'il s'est présenté en tant que membre de Quartier Nord, Quartier Fort. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos combats communs et peut-être ce sera l'occasion de nous parler de cette, ce, cette lutte pour les, le chauffage et compagnie sur les sur 13
H. Final de lutte, je veux dire. Alors souvent comme on a eu de nombreuses discussions et alors Karima, c'est pas quelqu'un que vous emmenez là où elle a pas envie d'aller. Je veux dire, elle pose ses conditions. Alors s'il trouve que c'est à peu près ce que moi et les copains de quartier fort on voulait faire à l'époque, mais elle disait un truc tout simple. Elle disait, mais moi les luttes des quartiers populaires, je les envisage pas en dehors de la parole des habitants des quartiers populaires et surtout des luttes menées par les habitants des quartiers populaires. Et en gros, ouais, c'est un militantisme d'accompagnement. Alors attention, je dis ça en toute modestie. Ce qu'on fait nous, c'est essayer d'encadrer ou d'apporter ou d'ouvrir des portes qui sont pas forcément ouvertes sur tout un univers normatif qui est pas celui des quartiers populaires. Voilà, en réalité, c'est ça qu'on fait nous. Hein. C'est en gros mettre en adéquation la parole volcanique des quartiers populaires avec la violence feutrée de la politique institutionnelle, exactement. Donc, parce que on a beau dire voir des raies sur le côté, des costumes bien taillés, des chaussures pointues, des comment on appelle ça pour les femmes, des tailleurs. Alors voilà, c'est des gens qui sont très propres, très jolis sur eux, mais en réalité les gens les plus violents, c'est absolument pas les gens des quartiers populaires. Nous, les gens crient leur détresse. Alors c'est vrai, on a le verbe haut, on s'énerve, mais de l'autre côté, on est capable. Alors moi, c'est une ancienne députée qui m'avait dit ça. En gros, elle était capable de tuer quelqu'un en le regardant les yeux et en souriant. Et la vérité, elle est là. Ça, nous, on est complètement incapable de le faire. Donc on essaie de faire coïncider ces deux mondes. Alors sur les luttes, je vais passer très très rapidement, mais bon, on a fait quelques alors la première des grosses luttes qu'on a menées c'est au Flamand quand il y a eu la deuxième ou la troisième rénovation urbaine à l'époque c'était en 2012-2013 c'est ça il me semble 2012. Ouais 2012-2013 puis après pas loin dans la foulée il y a eu tout ce qui s'est passé autour de l'Agora, la Busserine et puis surtout à partir de 2013 le collectif du 1er juin qui ensuite a fait scission. Nous on a créé le collectif des quartiers populaires de Marseille et attention c'est pas un événement anodin hein, parce que dans l'histoire politique des quartiers populaires de Marseille je crois que c'est peut-être le deuxième fait majeur de cette histoire singulière. La première, c'est bien sûr la marche de 83 hein, qui part de la Cailleule. La deuxième, c'est quand même le 1er juin 2013, le fait qu'entre 2000 et 3000 personnes très, très, très majoritairement issues des quartiers populaires, alors des gens qu'on ne voit absolument pas en manif d'habitude, c'est-à-dire des mamans, des papas, se sont déplacés de la gare Saint-Charles jusqu'à la préfecture pour réclamer, en tout cas pour lutter contre toutes les formes de violence. Parce que nous, on ne voulait absolument pas s'arrêter à ce moment-là à ce qui est cette forme de violence spectaculaire qu'on lit tous les jours dans les journaux, les assassinats de nos petits frères ou de nos enfants, etc. D'ailleurs, malheureusement, encore hier à la Busserine, hein, tu me disais tout à l'heure, Lily, que ça continuait. De là, le gros dossier, ça a été Herbel à partir de 2017.
Le PRU
de Saint-Barthélemy, bien évidemment. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement, on a bloqué le rond-point de Sainte-Marthe. Et là où je dis que la violence institutionnelle, c'est toujours quelque chose de déguisé, c'est toujours quelque chose de policé, mais que ça peut être très dangereux. Je me rappelle, moi j'ai plus de cheveux, mais je me les étais déjà arrachés ce jour-là, où quand on a bloqué le rond-point de Sainte-Marthe, normalement il aurait dû y avoir des policiers. Parce que la préfecture, tu fais pas une manif comme ça, surtout dans les quartiers populaires. Je veux dire, sans forcer le trait, on sait très bien que nos habitants, comme le dit Saïd Bouamama ou d'autres, sont considérés comme une population dangereuse. Et donc, normalement, il aurait dû y avoir des policiers pour assurer la sécurité. Ben, pas du tout. Ils ont très sciemment pas envoyé de policiers ce jour-là. On a failli avoir des gens qui allaient se faire écraser, etc. etc. Mais bon, donc oui, il y avait donc cette lutte sur le chantier, la rénovation urbaine Picon-Saint-Barthélemy, qui a été un gros dossier. Et puis après Herbel, avec l'histoire de la Légion des Loges, qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Ça, c'est un modèle de, s'il y a des choses à apprendre, si un jour il y a une université des quartiers populaires, c'est la lutte d'Herbel, c'est une lutte exemplaire dans la façon dont elle est modélisée de l'engagement des habitants, de toutes ces AG qu'on avait fait sur le quartier, puis ensuite la judiciarisation de cette problématique, parce qu'après, c'est que quand on les frappe dans le porte-monnaie qu'ils comprennent ou qu'ils commencent à entendre, tout d'un coup, du coup, ils n'ont plus besoin de prothèses auditives. Là, de suite, ils montent des commissions truc-muche, ils se mettent à l'écoute des gens, et dès que vous refluez, ça repart. Donc, en fait, c'est un travail constant. Mais c'est vrai qu'étudier cette lutte-là, ça peut être utile pour beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur quartier, qui ont besoin ou envie de faire quelque chose pour eux, pour leurs anciens, pour leurs jeunes, etc. etc. J'en oublie sûrement des luttes parce qu'on en a fait tellement.
Je pense que tu as parlé des deux luttes les plus exemplaires, une qui concerne le Grand Saint-Barthélemy, le blocage effectivement du rond-point, et puis le blocage d'une semaine du chantier Picon L2. Ça, c'était extrêmement important. Mais juste, puisque cette année, on fête les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Alors, ce qui est intéressant dans la petite histoire, puisque je suis passeuse de mémoire, hein, et pas critique littéraire comme vous m'avez inscrite. Hein. Mais bon, je reviens.
Je suis passeuse de mémoire.
Voilà, je suis passeuse de mémoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on est au comité Maméga et qu'on a eu l'opportunité, enfin moi et d'autres, évidemment, puisque c'était une démarche collective, d'écrire un peu l'histoire de ce quartier à travers un personnage qui était Monsieur Thiers. Et on a présenté ce livre le 3 décembre 2003. Donc, c'était les 20 ans de la marche. Alors, au départ, c'était des dates qui nous étaient proposées par... nous, on avait proposé le 17 octobre, en référence au 17 octobre 61. Malheureusement, ça n'a pas été retenu. Puis, ils nous ont proposé le 3 décembre. On a sauté à pieds joints en disant, bien sûr, on est d'accord. Et puis, rappeler qu'effectivement, le collectif des quartiers populaires de Marseille a présenté un document auquel tu as énormément participé, Mohamed, tu l'as quasiment co-rédigé, qui était les 101 propositions pour une urgence sociétale à Marseille. Et ça a été présenté le 3 décembre 2013 au centre social des pas au centre social des Flamands, dans les locaux de l'association Sheba. Donc quand même, il faut rappeler les formes d'engagement qu'il y a eu à la fois dans ce territoire de la part des acteurs associatifs. Et pourquoi c'était intéressant de ce document, c'est que dire que 30 ans après, la question de l'égalité dans ce pays, elle n'est toujours pas effective, et que le racisme est toujours malheureusement un mal présent. Et voilà. Donc c'était vraiment... voilà. Moi, je pense que c'est les deux emblématiques, mais il y en a tellement eu d'autres.
Oui, parce que partout où on nous a sollicité, on est intervenu. J'en profite d'ailleurs, parce qu'on est sur des charbons ardents en ce moment, avec la problématique de l'augmentation des charges locatives liées au chauffage, notamment sur Frévalon, mais en fait, c'est tout le parc immobilier d'HMP. Donc, les gens sont mobilisés depuis janvier. Ils ont tout bonnement vu leur charge augmenter de 300%, ce qui est juste insoutenable, pour des prestations qui sont pas rendues, en fait, en réalité, hein, parce que au-delà même du cadre de vie, moi, je veux bien qu'on paye des charges, hein, locatives, c'est pour l'entretien, pour le chauffage, etc. Mais à un moment ou à un autre, quand les gens, non seulement on leur augmente les charges locatives, mais qu'à côté de ça, ils se pèlent tout l'hiver, ça commence à faire cher le fait d'habiter dans un soi-disant un habitat à loyer modéré, qu'il est de moins en moins, avec des situations extrêmement... extrêmement détérioré du point de vue financier, et donc le financier a des impacts psychosociaux, hein, sur les gens, puisque en plus de l'augmentation, il y a des menaces, des intimidations qui sont lancées à l'encontre des locataires, et du coup il y a une mobilisation qui se fait donc sur Frévalon, mais pas que, puisque y compris à la Busserine. D'ailleurs, je passe un coucou à Yamina si elle nous écoute, avec l'association des locataires et cadres de vie de la Busserine, qui se mobilise énormément sur le quartier par rapport à cette question et toutes les autres. On a les Lauriers, bref, il y a une quinzaine de quartiers à Marseille. Et c'est là où tu me posais la question de mon engagement. Je le redis, moi, j'essaie toujours de j'ai une vision, hein, romantique de ce qu'on fait toutes et tous, mais quelque part j'arrive pas à me retrouver si je suis juste là à dire oui, il faut être uni, etc. Donc j'ai besoin de techniques, Et là où c'est hyper intéressant de multiplier les profils comme le mien, c'est que de cet engagement, en tout cas de cette mobilisation locale, on arrive à faire l'articulation avec ce qui se passe au niveau national. Je suis militant à l'AFI et moi je me bats à l'intérieur de mon organisation. Je ne me suis pas battu beaucoup parce que les gens étaient convaincus. Hein. De toute façon, il faut être honnête, hein, je ne vais pas vous dire. En tout cas sur ce sujet-là, ils sont tous partis comme un seul homme. Et on a par exemple William Martinet qui est député des Yvelines. Qui va déposer un projet de loi pour encadrer les loyers et les charges, évidemment. Donc ça, c'est l'articulation qu'il y a entre ce militantisme politique et le militantisme de terrain. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que moi je fais. J'espère que les gens le comprennent comme ça, parce que le but du jeu, c'est pas pour autant. Alors être élu, c'est bien, ça peut apporter des moyens, des portes qui s'ouvrent en plus, etc. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être utile. Et je pense que j'arrive à être utile dans cette relation-là. C'est pour ça que quand les gens font des procès d'intention sur « Ouais, mais toi, tu fais de la politique. » Oui, bien sûr que je fais de la politique. Mais tout le monde fait de la politique. Hein. Quand on va acheter son essence à Total, on fait un choix politique. Hein. Quand on va à Carrefour ou chez le petit commerçant du quartier, on fait un autre choix politique. Donc oui, je fais de la politique. Je m'en cache pas. Ce qui est important en politique, c'est pourquoi on fait de la politique. Et mon éthique du comportement politique à moi, c'est d'essayer de ne pas trahir ceux pour lesquels je mobilise. Après c'est eux qui jugent, hein, et c'est les urnes qui tranchent. Mais le fait de toujours considérer la politique comme quelque chose de sale, je dis absolument pas. Ce qui est sale, c'est de faire croire aux gens qu'on ne fait pas de politique alors qu'on en fait tout le temps, y compris de la part de gens qui sont élus. Alors à partir du moment où on est élu, dans son Wikipédia ou dans sa machine, mais personnalité politique. Et les gens vous disent, mais moi, je ne fais pas de politique. Et c'est le débat que j'ai souvent avec des personnalités. Oui, mais Mohamed, tes arguments, moi, je suis d'accord avec toi. Ben alors, pourquoi tu es à droite ou pourquoi tu es dans cette organisation politique? Est-ce que tu aurais voté ça? Est-ce que tu aurais voté ci? Pourquoi tu soutiens la majorité présidentielle? En réalité, il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la politique de ce pays, parce que malgré tout, ce pays est le nôtre. Du coup, si on s'intéresse pas à ce qui est pris comme décision pour l'ensemble de la population, bah, tout de suite on se met dans une forme d'exclusion, hein, qui est contre-productive pour nos intérêts. Pardon, et je parle en syndicaliste là, même pas en homme politique. C'est-à-dire que moi, je suis pas plus intelligent que la moyenne. Je dis juste que quand il y a quelque chose qui va dans mon intérêt, ben j'essaie de pousser dans ce sens-là. Point.
Ben, je vous remercie tous deux pour cette présentation assez complète et intéressante. On va se faire une nouvelle pause musicale après laquelle on entrera entre guillemets dans le vif du sujet avec le livre de Mohamed. Donc pour l'instant, on va lancer un morceau de musique de Cypress Hill, It's From The Bong.
It's from the bong. It's from the bong. Take hits from the bomb. Hits from the bomb.
Nous sommes toujours en direct du comité Maméga pour les échos du Grand Saint-Barthélemy. Et vous êtes sur Radio Galère. Nous avons autour de la table notre invité Mohamed Ben Saada, notre passeuse de mémoire qui va se transformer dans quelques instants en critique littéraire, Karima Berrich. Jean-Marc qui est un peu silencieux, mais qui est là avec nous malgré tout. Vous pouvez réagir au 07 49 53 26 38. Donc on va revenir sur ton livre, Mohamed, Legalize It. Donc j'ai participé il y a quelque temps à la réunion, entre guillemets, que tu as, enfin la réunion de présentation de ton livre au Centre Social Agora, à laquelle a été également présente Madame Berrich.
Absolument.
Bon, après, j'ai reconnu dans la salle certains nombres de militants du territoire. On ne va pas tous les citer. Mais bon, ça faisait plaisir un petit peu, parce que par exemple, Zora, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Non, ce n'était pas Zora qui était présente, c'était Didouche.
Ah, Didouche, ouais.
Qui était présente. Mais bon, d'autres acteurs et militants qu'on connaît bien sur le territoire, notamment Anifat Agelment. Bon, la parenthèse est fermée. Donc, Karima, est-ce que tu peux nous dire deux mots de cette présentation au Centre Social Agora et au sujet du livre de Mohamed? Je vais pas te... Il y avait un certain nombre de questions, mais je vais te laisser faire une petite présentation sans t'imposer quoi que ce soit.
D'accord, merci bien. D'abord, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, Mohamed présente ce livre au sein du Grand Saint-Barthélemy. Donc, c'est toi, je pense, qui as pris contact avec Anne-Marie Tagawa du Centre Social, ou les deux.
Avec la même idée.
La même idée, donc c'est très bien. Et ce qui était, enfin, moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, ce soir-là, c'était à la fois, bien sûr, que Mohamed puisse présenter son livre à des habitants et à des acteurs associatifs du Grand Saint-Barthélemy, mais il y avait beaucoup plus que cela, puisque d'autres militants sont venus, des gens, des personnes, des camarades de l'AFI étaient aussi présents, des camarades de Mohamed. Ce qui était intéressant, c'est que moi, ça m'a rappelé les rencontres-débats qu'on organisait à l'Agora, et où il y avait, la salle était pleine. Ça faisait quelque temps, voilà, oui, autour des banquets de Fanon, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Que je n'avais pas connu cet espace, ce que j'appelle moi un centre social, pour moi c'est de l'éducation populaire, mais c'est de l'éducation politique. Et c'était intéressant que Mohamed soit là pour présenter un sujet qui est quand même un sujet extrêmement important dans ce territoire. Donc je vais faire là aussi ma passeuse de mémoire si tu le permets. Le cannabis et l'héroïne sont arrivés dans nos quartiers, dans le Grand Saint-Barthélemy, fin des années 70, début des années 80, pour mémoire. Hein. Et donc on a eu ce lot de jeunes décédés d'overdose. Après, le sida est arrivé, certains sont morts du sida, d'autres ont fait des séjours prolongés en prison ou en hôpital psychiatrique. Ça montre quand même que la drogue a vraiment impacté et a marqué l'histoire de façon néfaste, le Grand Saint-Barthélemy. Ce qui est intéressant, c'est que je vais parler de trois associations qui se sont saisies de cette problématique très rapidement. La première, c'est l'association Les Amis de l'Espoir, qui a été créée autour d'habitantes, de mères de famille, de jeunes qui sont effectivement décédés ou d'overdose ou du sida ou qui étaient des consommateurs d'héroïne. Hein, ça concernait l'héroïne. Et une des personnes qui coordonnait ce groupe de femmes, les Amis de l'Espoir, c'était Yamina Bencheni, qui était éducatrice spécialisée. Et la première présidente de cette association, c'était Ada Berebou, donc une habitante des Flamands. Je trouve que c'est important de rendre aussi, de parler de ces personnes qui, à un moment donné, se sont saisies de cette opportunité, surtout à travers ces témoignages de mères de famille, d'interpeller les pouvoirs publics. Parce que Je ferai peut-être un parallèle un peu ou un raccourci, mais excusez-moi. Mais j'ai l'impression que nos jeunes qui sont morts d'overdose ou du sida, ou nos gamins aujourd'hui qui meurent sous les balles de Kalachnikov, ça n'intéresse pas grand monde. En tout cas, ceux qui décident, ceux qui ont un pouvoir de décision, et que si on ne s'organise pas pour les interpeller, je veux dire, la raison, Mohamed, si ce n'est pas nous-mêmes qui nous engageons, qui nous organisons pour défendre nos propres intérêts, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui le feront. Je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, mais ils ne le feront pas à la hauteur de ce que nous souhaitons. Donc, il y a les Amis de l'Espoir. Après, il y a évidemment l'association Body and Soul, parce que moi, j'y ai travaillé avec Jean-Pierre Ega. Et que, là, ça s'adressait plutôt à un public post-drogue. Puis c'est l'époque où, effectivement, l'État, via le sida, se saisit de la problématique de l'héroïne et va mettre en place notamment ce qu'on appelle les, de l'art thérapie avec les produits de substitution comme le Subutex, etc. Et Jean-Pierre va s'intéresser à ce public-là, donc c'est un public vivant, mais très abîmé par la consommation d'héroïne. Et il va se former à la danse-thérapie. Jean-Pierre a une formation de danseur de danse moderne. Il va s'intéresser pour effectivement réhabiliter quelque peu leur corps abîmé par cette consommation d'héroïne. Et puis la troisième association, quand même, à laquelle l'association, le Centre social Agora s'est associé, c'est l'ADAP. L'ADAP, qui est une association de prévention. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de jeunes, un rajeunissement de jeunes embrigadés dans les trafics. Et la question se posait pour les éducateurs spécialisés, mais pas que, mais aussi pour les animateurs jeunes des centres sociaux. Est-ce qu'on doit continuer à tendre la main à ces gamins qui sont impliqués dans les trafics? Ou est-ce que finalement, on les laisse, on laisse les trafics prendre le dessus? Mais c'est vraiment une question qui, voilà, je trouve que sur 30-40 ans, il y a toujours une continuité en tout cas de savoir comment on peut, d'une certaine façon, mettre en lumière ce qui se passe dans nos territoires. Puis là, et puis je vais laisser la parole à Mohamed, hein, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut s'en saisir politiquement de cette question. Surtout que depuis une dizaine d'années, voire plus, hein, en tout cas depuis une dizaine d'années, un certain nombre de jeunes tombent sous les balles de Kalachnikov liées au trafic. Et chaque année, nous avons un lot comme ça, un nombre de jeunes tués, et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a 40 ans, il mourait d'overdose et du sida. Et aujourd'hui, il meurt sur les balles de Kalachnikov. Et le point commun, c'est toujours la drogue.
Le point commun, c'est toujours la drogue, effectivement, comme tu le dis. Compliqué de faire la relation sans rentrer dans une légère forme de conflictualité, en tout cas intellectuelle par rapport à ça. Moi, je ne fais pas le rapprochement direct entre ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'héroïne, parce que c'était une véritable hécatombe, et ce qui se passe aujourd'hui avec l'économie du cannabis. C'est deux. La constante, le commun, c'est que ça se passe toujours dans nos quartiers. C'est que c'est toujours nos quartiers qui en souffrent et c'est beaucoup nos jeunes qui en meurent. Après, c'est deux réalités qui sont différentes, qui ont été étudiées sociologiquement très... c'est normal avec le recul, hein, historiographique qui est nécessaire pour les années 80 et l'héroïne. Sur le cannabis, ces études, elles sont encore en cours. Mais je crois que le cannabis impacte beaucoup plus la globalité entre guillemets, de la société que ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'héroïne. Pourquoi je dis qu'il impacte beaucoup plus? Parce que c'est un fait culturel, c'est un fait social, tout simplement. Hein. Il faut regarder en réalité de quoi on est en train de parler. Hein. Si moi je me lève et je fais, je me lève pas un beau matin en me disant ouais, je vais faire un livre sur le cannabis et je vais l'appeler Legalize It. Peter Tosh, oui, hommage, il n'y a pas de souci. De temps en temps, j'écoute sa chanson, mais non, c'est que c'est devenu un problème central, y compris pour des gens et des militants politiques comme moi. Il fallait trouver des solutions pragmatiques. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on continue surtout à ne plus faire? Moi, je fais un livre sur la légalisation sociale du cannabis. Si vous me permettez, j'expliquerai pourquoi sociale. Mais en tout cas, sur la légalisation du cannabis et pas la dépénalisation. J'expliquerai la différence aussi. Mais parce que je crois que c'est une manière de s'extirper de ce marasme dans lequel on est. Tu parles d'oubli. Et Lily, dans son introduction, expliquait que la légalisation était controversée. Et je dirais au même titre que la prohibition. Moi, en réalité, on me pose des questions. Oui, mais la légalisation, qu'est-ce que tu veux faire, Mohamed? J'ai envie de poser une question toute bête. Hein. Alors, on n'est pas dans Rabbi Jacob, mais on me pose une question. J'ai presque envie d'en répondre aux deux. quel est votre bilan de la prohibition ? Expliquez-moi, entre 1970 et 2023, ce qu'on a gagné par rapport à la consommation des jeunes, par exemple, en France. On est les champions d'Europe de la consommation du cannabis. Non, mais ça, c'est des chiffres. C'est pas Mohamed Ben Sada qui les sort de son chapeau. Je veux dire, même les détracteurs sont obligés, devant cette réalité-là, de dire « ouais, c'est vrai ». Alors, je sais pas, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai l'impression que les gens se sont mangés des murs et qu'on leur dit « bon, qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure corrective ?» Jean-Marc, tu connais, hein, dans les CA, dans les machins, les gens, ils se mettent autour du truc. Jean-Luc les appelle les crânes neufs, tu vois de qui je parle. Et ils disent « oui, on va prendre des mesures correctives ». Alors, la mesure corrective, c'est quoi ? Aller encore plus vite dans le mur. La réalité, c'est toujours la même. Donc moi, je dis « bon, attendez, je descends de la voiture, c'est bon, stop ». La réalité, c'est qu'effectivement, pratiquement, l'année dernière, c'est 36 morts, 36 jeunes qui sont morts dans le quartier. J'ai presque envie de dire, mais si ces jeunes-là, ils avaient été assassinés, massacrés, hachés menus par des balles de Kalachnikov dans les beaux quartiers, qu'est-ce que vous auriez pris comme décision ? Le bout du bout du bout de la... Là, je fais vite, hein, je schématise, hein, mais parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu, moi, tout au long de mon militantisme par rapport à cette question-là, c'est de me dire, mais en réalité, mais pourquoi vous ne réagissez pas à ce qui est un véritable drame et qui se déroule au quotidien dans nos quartiers ? Je veux dire, moi, j'en ai marre d'aller visiter des familles endeuillées, j'en ai marre de voir des frères, des mères accompagner leurs enfants. C'est pas dans la logique, c'est pas dans la nature des choses de voir ces jeunes-là être enterré à 15 ans, 17 ans, 21 ans, 30 ans. C'est pas logique. Donc, quand c'est un épisode microscopique, on peut fermer les yeux. Mais la réalité, non, c'est que depuis 2013 et la grosse mobilisation qu'il y avait eu autour de ces questions-là, notamment à Marseille, il y a des centaines de morts. On est en train de parler d'un bilan de guerre, quoi, presque. Il y a des centaines de morts. Donc, un État, des organisations politiques, des institutions, si elles étaient doué de minimum de rationalité, aurait dû prendre à bras le corps cette question-là et trouver des réponses. Alors moi, j'essaie de proposer, je répète encore une fois, mon livre, c'est absolument pas une incitation à consommer du cannabis, pas du tout. Hein. Je fais absolument... Il n'y a pas d'approche morale. Ce qui tue le débat, ce qui fait qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui en France sur le cannabis, c'est que justement, c'est l'approche morale, la question. Que ce soit de la part et alors pour le coup, je mets les pieds dans le plat, mais des conservatismes de tous bords. Que ce soit les conservatismes religieux ou les conservatismes politiques. Vous parlez avec un TCE ou avec un Ciotti, etc. Mais vous ne pouvez pas en réalité discuter ou argumenter. Les types sont butés. C'est-à-dire, ils tapent et ça revient. Il n'y a pas de possibilité de voir plus loin que le bout de leur nez. Ils vous disent non, mais il faut frapper encore plus fort. Il faut mettre de la police. Mais attendez, c'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Mettre un flic derrière chaque citoyen ? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Du dire même des gens qu'on voit. Parce qu'en réalité, tout est théâtralisé. Il y a des jeunes qui meurent. Alors de moins en moins, hein, d'ailleurs, pour dire que je suis même inquiet, pas sur ça, mais quelque part sur le fait que ça ne les intéresse même pas. On va dire qu'en ce moment, c'est la réforme des retraites, etc., etc. On va dire que c'est peut-être ça qui fait qu'il n'y a pas de réaction, du pouvoir ou des exécutifs politiques. Mais habituellement, qu'est-ce qui se passe ? Une compétition pour contrôler une compétition qui est en réalité une compétition de type capitalistique. Sauf que là, les opéales se font à coup de balles de calache. Hein. La réalité, elle est là. Hein. Donc, y a des jeunes qui meurent. Le gouvernement envoie son ministre de l'Intérieur qui, tel un gorille dans la brume, tape sur sa poitrine en éructant qu'il va remettre de l'ordre, etc., etc. Il balance des compagnies de CRS devant la Busserine, devant le Clos, devant le Castella. Ça dure 15 jours, ça change strictement rien à la donne, et tout ce petit beau monde s'en va à nouveau, et on oublie, et on recommence la semaine d'après. Donc moi, ma proposition, elle est de dire, mais attendez, il y a des pays où ils ont compris qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, et ils ont essayé de mener une réflexion, ou en tout cas déjà un débat, déjà qu'on débatte de ça, qu'on puisse avoir le droit de débattre de ça, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Et pas rester sur le sketch de Coluche, le hashish c'est pas bien Gérard. On s'en fout que ce soit pas bien, c'est pas le souci, ça existe. Et moi, en tant que responsable politique, je suis obligé de m'intéresser aux choses qui existent. C'est comme si d'un coup d'un seul, je me disais, mais non, mais il n'y a pas de problème de salarié, il n'y a pas de problème de féminine, il n'y a pas de problème de racisme, etc., etc. Non, là, il y a un problème qui est lié à la consommation du cannabis, qui, avant d'être un problème de sécurité, est un problème de santé publique. Notre jeunesse est la plus addicte à la consommation de cannabis. Donc ça veut dire que le bilan de la prohibition est catastrophique du point de vue sanitaire et du point de vue sécuritaire. Et ce que je fais dans ce livre, c'est juste ouvrir le débat. C'est un essai. C'est un essai, hein, tout modestement. J'y mets ma réflexion, mes arguments, et j'attends qu'on contre-argumente, mais de façon rationnelle.
Juste bonjour d'abord. Est-ce que cela ne signifie pas aussi que c'est une cache-sexe aussi, pour permettre à ceux que les peuples, aussi les habitants des quartiers, ne puissent pas penser autre chose que cela, se focaliser sur ce point, éviter en quelque sorte qu'ils puissent avoir une forme d'émancipation et de conscientisation par rapport à leur situation propre et personnelle au quotidien. Donc c'est la sécurité, l'insécurité, c'est la drogue, le cannabis, et cela empêche aux habitants de pouvoir se mobiliser, y compris par rapport aux élections, par rapport à telle problématique qui pourrait être, même si cela existe.
C'est sûr que dans certains quartiers, ça rend la vie invivable, évidemment. Pour autant, s'il y a un cache-sexe, c'est plus du point de vue de ce qui n'est pas fait pour les quartiers. plus que dans l'idée de dire ouais, on va laisser le cannabis prospérer, etc. En réalité, c'est une économie. On a beau dire que c'est une économie parallèle, etc., mais les types, c'est des commerçants, des entrepreneurs. Maintenant, ils ont des sociétés, ils font des bons d'achat, etc. Alors, je ne sais pas, il faudra que je me renseigne à nouveau pour voir si eux aussi, ils ont été frappés par l'inflation. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce sont des commerçants. Et au risque de choquer certains, ce sont de très bons commerçants. Ils ont tout compris. Le problème, c'est la violence. Moi, mon problème, c'est la violence. Et c'est ce que tu disais, c'est que s'il y a cache-sexe, c'est qu'effectivement, quand tu vis dans une cage d'escalier ou en bas de chez toi, ben, t'es carrément obligé de sortir ta carte d'identité. C'est vrai dans très, très peu de quartiers. Hein. Faut attention, hein, moi, je travaille pas à BFM TV ou à CNews. Hein. C'est vraiment un pour cent des trucs. Et même, attendez, je vais encore aller plus loin. Moi, au Clos, il y avait un spot. Mon père, avant qu'il décède, quand il était encore autonome, ben les choufs l'aidaient à faire les courses et le ramener. Il y a cette notion là. Je suis pas en train de dire c'est bien. Je dis juste que je pense que la légalisation est une solution, y compris une solution sociale. Et tant qu'on fera pas de légalisation qui aille en prenant compte de cet aspect social, on aura fait une légalisation qui est pas complète.
Il y a l'aspect social et santé aussi qui te préoccupe, parce que
c'est ce que j'ai dit en premier. Hein.
Si vous voulez bien. On reprend le débat après cette pause musicale, parce que c'est très intéressant et ça faisait partie du déroulé de l'émission. Donc, une petite respiration musicale, non, c'est pas grave, avec le morceau de Section d'Assaut, La drogue te donne des ailes.
Mon bonheur coûte 30 euros, se balade dans le bout des gens. Je dépends d'elle comme si sans elle c'était mon cœur qui foutait le camp. Je brûle ma drogue quotidiennement, car ma vie c'est l'enfer. J'ai embrassé ses charmes sans avoir vu ses dents de fer. Quand tu me vois, dis pas mes skills, je cache la haine d'au moins 10 skills. Oui, mes propres enfants m'esquivent, car pour leur père n'ont plus d'estime. Si je regarde toujours le sol, c'est que je suis tombé bien plus bas que terre. La cocaïne dirige la rue et tous ces gueux, j'en suis balterne. Elle m'apporte tellement de plaisir, j'aime mon dealer plus que ma mère. Et à côté de mon crack, une jolie femme n'est que de la merde. Dans mon crâne, j'ai une galette. Certains tox veulent ma tête. Car je connais pas le partage, je consomme tout seul ma quête. L'argent n'a pas d'odeur, car je cache ma cam dans mon zen. On a tous le sida, tout le monde s'écarte quand on saigne. Il me traite de mort vivant, car je marche seulement en oscillant. Mais ce mec-là qui aime insulter n'est qu'un dealer qui vaut ce qu'il vend. N'est qu'un dealer qui vaut ce qu'il vend.
Passe-moi cette putain de galette, merde.
Ouais, je suis sérieux là. Vas-y, casse-toi là.
Je te ramène l'argent demain.
Vas-y, casse-toi, rentre dans le pack là. Vas-y, je m'en bats les couilles.
Putain, mais j'en ai
je m'en bats les couilles, rentre dans le pack.
La drogue te donne des ailes, tu frôles le ciel. Ce n'est qu'un plaisir à temps partiel. Tes joues se creusent, la fumée cerne, te cerne. T'es dans un océan de conseils.
La coke te donne des ailes. Le shit te donne des ailes. L'extasie fait le même job.
Moi je suis l'un des mecs les plus endettés, toute la capitale. Dernier chrome que j'ai pris pour ma con, je crois que c'était tout à l'heure. Manque de neurones, j'ai même plus à qui je dois de l'oseille. I manque de zéro, laisse la moirée, sois pas mauvais.
Hey, non, hey, je te laisse rien, vas-y, dégage. Dégage. Deux roues.
Mais si tu veux, même, je te fais la même. C'est dans Menace to Society. Oui, je te suce la
quoi. T'es sérieux là? Eh, vas-y, casse-toi. Je vais te défoncer. Attends, reviens.
Non, t'énerve pas. Tranquille, je me tire ailleurs. À la recherche d'un mec qui bire un peu moins tirailleur. Il me faut du bif vite. J'ai les poches vides, même pas comme faire un sticker. Je m'étais juré de ne plus faire le queuse de la daronne. Des moments incontrôlables, ray, tu le fais même si t'arrêtes. Ou arracher un sac d'une vieille sur le point de mourir. Bref, tout un tas de bêtises où je laisse Dan me nourrir. La drogue me donne des ailes, mais en vrai celles-ci sont cassées. Tout stoppé, atterrir, Inch'Allah dès que j'ai l'occasion.
La drogue te donne des ailes, tu frôles le ciel, ce n'est qu'un plaisir à temps partiel. Tes joues se creusent, la fumée cerne tes cernes, t'es dans un océan de conseils.
La coke te donne des ailes, le shit te donne des ailes, l'extasy fait le même job.
Le toxico recherche un plaisir. Sans fournir d'efforts, il est dans le noir une fois sur deux, comme si le soleil clignait des yeux. Tes veines te grattent, ça devient alarmant. D'un coup, tu fonds en larmes. Le manque de drogue s'acharne, tu vends le lait du marmot. Pour elle, tu peux tout flinguer. Quitte à flinguer le frangin, je répète, tu peux tout flinguer. Flinguer le frangin, vendre tes fringues. Tu travailles en tant que top modèle, tu vis grâce à ce corps de rêve. Pas question de lui faire des séquelles, donc tu te piques contre les orteils. Seule la rue t'héberge. Tu sniffes tes berces sur l'avant-bras, plus aucune veine. C'est pas grave, tu te piques la verse. Au réveil, ton visage tombe. Tes lèvres sont sèches, pas besoin de préciser que monsieur est dans la haste. Les gens s'écartent, ils te détestent. T'es négligent, donc tu en pèses. Espèce de, tu incarnes la peste. Les mêmes chemins, les mêmes gestes, les mêmes seringues, la même sieste, le même stress. La mort arrive et tout ça.
Nous sommes toujours sur les ondes de Radio Galère, sur le 88.4 en modulation de fréquence, en compagnie de Mohamed Ben Sada, Karima Berich et Jean-Marc Ega. Donc nous allons poursuivre notre débat sur la légalisation du cannabis. Donc, bon, je ne vais pas me jouer l'avocat du diable parce que non, ce n'est pas du tout ça, mais bon, ce qu'il est dit sur le cannabis, donc, c'est qu'il est interdit parce qu'il cause des problèmes de santé multiples. Donc, des problèmes liés à la consommation de cette drogue sont des problèmes respiratoires, des troubles psychologiques et une dépendance à long terme. Ensuite, bon, naturellement, c'est un problème de santé publique, ça, on est tous d'accord pour le dire. Et est-ce que les gens pensent généralement aussi, c'est la question morale, bon, grossièrement. Droguer, c'est pas bien. Bon, ben, je vais te laisser la parole.
Alors, je vais te répondre relativement simplement, hein, par comparaison et par raison, mais du dire même des addictologues, la drogue la plus puissante, toute catégorie confondue, vous allez être étonné, vous allez tout de suite penser à l'héroïne, la cocaïne, ben non, c'est l'alcool. Et alors, rassurez-moi ou inquiétez-moi, il me semble que l'alcool est en vente libre dans ce pays.
Oui.
Donc voilà, on comprend que c'est un choix politique, que c'est un choix culturel, que c'est un choix moral. Moi, mon propos, il n'est pas d'encourager les gens à aller fumer du cannabis, pas du tout. Je dis que l'État doit jouer son rôle de la même manière qu'il le joue pour l'usage et la consommation d'autres substances illicites, qu'il s'agisse de l'alcool, qu'il s'agisse du PMU, des paris sportifs, etc., etc. C'est des drogues en vente libre, ça. Et c'est une addiction qui est en train de alors pour les paris sportifs ou pour le ou le tabac, exactement. Ou en tout cas, par exemple, les paris sportifs, c'est quand même une addiction qui est en train de frapper notamment les quartiers populaires de plein fouet. Et les ravages que va causer l'autorisation de faire ce qu'on veut en termes de public par rapport aux paris sportifs, et à mon avis, a un impact psychosocial beaucoup plus important que le cannabis. Donc je disais juste que oui... moi, j'encourage personne à aller fumer. Par contre, je sais que des gens fument, des jeunes fument. On n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de la notion de plaisir liée à la drogue, etc., etc. Et c'est un problème philosophique. Ça fait 10 000 ans. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les gens fument de la drogue. Alors, il y en a qui vont vous dire parce qu'ils sont pas bien, là, qui vont tout simplement vous dire parce que ça me plaît. Alors, est-ce que qui je suis moi pour dire à quelqu'un à qui ça plaît, non, tu n'as pas le droit parce que moi, ça heurte ma sensibilité. Donc, ouais, ça peut choquer d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui se dit responsable politique, mais en réalité, je suis juste honnête. Ceux qui disent le contraire sont soit des menteurs, soit des apprentis fachos. La réalité est là. Quand moi, je veux imposer mes idées de force aux autres, c'est que je suis déjà dans une forme de dérive autoritaire. Donc, oui. Tu me poses la question sur le cannabis, je te réponds par quid de l'alcool, etc. etc. Sur sa dangerosité, en soi, le cannabis, il y en a même qui contestent la notion d'addiction sur le cannabis. Ouais, il y en a qui contestent. Bon, je ne vais pas rentrer dans la cinématique de l'endorphine, etc. etc. C'est compliqué, à la limite, ça ne m'intéresse pas et ça n'intéressera pas les gens plus que ça. C'est un débat d'addictologue, mais par rapport à l'alcool ou par rapport à d'autres substances, c'est beaucoup moins nocif. Pour autant, je le répète encore une fois, s'il faut s'en préoccuper, c'est que c'est la masse de gens qui consomment le cannabis qui fait que ça devient un problème social. Je veux dire, c'est 1,9 million consommateurs quotidiens de cannabis en France. 48% des Français ont consommé du cannabis dans leur vie. La jeunesse française est largement au-dessus de la jeunesse portugaise, par exemple, qui a dépénalisé, alors je réexpliquerai pourquoi dépénalisé, qui a dépénalisé toutes les drogues en 2000. Eux, ils étaient précurseurs. Ils avaient un problème par rapport aux drogues à l'époque. Ils ont légiféré et ils en ont fait un problème de santé publique. Ils ne le traitent absolument pas du point de vue de la sécurité. Ils le traitent du point de vue de la santé. Donc, en gros, quand ils attrapent quelqu'un qui consomme, il l'envoie pas en prison, ce qui est intelligent, mais il l'envoie en soins. Après, la façon dont il l'envoie en soins, ça laisse à redire. Mais en tout cas, l'idée est à réfléchir. Que te dire de plus sur la dépénalisation et la légalisation? La grosse différence, c'est que si on dépénalise aujourd'hui, ça veut dire qu'en gros, l'État reconnaît un état de fait et dit, bon, écoutez, le boxon, il est celui-là. Moi, je retire mes billes et je pénalise plus personne. Moi, je veux pas ça. Je veux qu'on encadre le commerce du cannabis. Je veux qu'on l'encadre pour des raisons de santé publique et puis surtout, dans un deuxième temps, pour des problématiques de fléchage fiscal et d'abord social de la question. Il faut pas juste que ça reste un commerce. Il faut quand même en donner un autre. Ces territoires qui ont énormément souffert, il y a une espèce de forme de non pas de revanche, mais en tout cas de retour sur investissement. Hein. Pardon de parler comme ça sur les souffrances qu'on a toutes et tous endurées par rapport à ça, mais en termes de santé publique, comment vous voulez contrôler la consommation et l'état de santé des jeunes si vous interdisez une drogue et notamment le cannabis? On n'a pas de suivi digne de ce nom dans ce pays, on n'a pas de contrôle de qualité des produits. Or, on est malheureusement, alors contrairement à ce que disent les gens, oui, ce qui se vend en termes de résine ou d'herbes dans les quartiers, etc., etc., c'est pas de bonne qualité, c'est faux. C'est faux. Je le redis encore une fois, les vendeurs, les dealers dans nos quartiers sont des commerçants, et plutôt des bons commerçants. Désolé de le dire comme ça, c'est plutôt des bons commerçants. Donc ils font attention. La seule grosse difficulté, c'est qu'il y a une course à l'armement en termes de THC, hein, le tétrahydrocannabinol, qui est là. Le principe actif. Ouais, le THC, le principe actif. Il y a le CBD, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les deux principaux. Celui-là, c'est celui qui donne les effets psychotropes, hein, celui qui fait planer, etc. etc. Alors, pour le coup, il y a une vraie course à l'armement. Et à une époque pas si lointaine, on était à un étiage qui allait entre 15 et 25% grand maximum de THC. Aujourd'hui, on est pratiquement à fleur des 40%. Là, ça devient extrêmement dangereux, avec des retombées en termes d'isolement, des retombées en termes de schizophrénie, etc., etc. Et les addictologues commencent à s'inquiéter, à tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça, notamment sur l'effet sur les publics jeunes, parce qu'aussi, on a observé un rajeunissement de la première prise ou du premier contact avec le cannabis, etc., etc. Mais si on ne le légalise pas, on ne pourra pas mener de campagne de prévention, on ne pourra pas accompagner les gens qui commencent à souffrir de problèmes d'addiction, on ne pourra pas avoir de contrôle qualité sur la nature du produit, etc., etc. Donc, si on se soucie vraiment de notre jeunesse, il faut légaliser le cannabis.
Et légaliser, cela veut dire un circuit de distribution aussi. Comment peut-être envisager voir les choses dans cette perspective-là? c'est à l'État de prendre toute sa part et sa quote-part, puisqu'on voit au niveau du tabac, de l'addiction, de l'alcool et autres, il y a une quote-part qui est versée au motif que ça permet de contribuer, de verser quelque chose aussi à la sécurité sociale.
Oui. Avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux nous faire un distinguo entre l'égalisation et l'égalisation sociale ? Quelle est la différence entre les deux ?
Alors moi, je considère que la légalisation, elle doit obligatoirement être légalisation sociale. Ce qu'on met dans le terme légalisation sociale, c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années à Quartier Fort. Mais en gros, on veut absolument ne pas aborder la problématique de l'usage et de la consommation du cannabis que par le biais sécuritaire et sanitaire. On y adjoint le côté social parce qu'il faut qu'il y ait des retombées. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai fait ce livre parce que je considère la légalisation comme un outil, absolument pas comme la panacée. Je ne dis pas que la légalisation va résoudre tous les problèmes. Par contre, c'est un outil supplémentaire dans notre sacoche qui fait qu'on va pouvoir lutter notamment contre les problématiques de discrimination, de ségrégation territoriale, etc. etc. Pourquoi ? Parce que s'il y a des mécanismes qui vont être difficiles à mettre en place en France parce qu'on a une constitution très compliquée, contrairement aux États-Unis où le système fédéral permet un fléchage fiscal beaucoup plus simple, je donnerai... comme idée. Alors, pour ne pas me perdre, disons qu'en gros, il faut que l'argent, que les bénéfices qu'aura dégagé la vente de ce produit-là puissent nous aider, notamment, par exemple, à reconstruire nos écoles, nos routes, ouvrir des hôpitaux, des centres de dialyse, etc. etc. L'exemple type, moi, j'ai deux... Pardon, je vais citer des chiffres, c'est des choses que j'aime pas trop faire, notamment à la radio, parce que ça saoule les gens, mais bon, des fois c'est bien parce que ceux-là, ils sont très frappants. Entre 2017 et 2018, l'État du Colorado, qui avait légalisé le cannabis, donc je crois en 2015-2016, a dégagé la bagatelle de pas loin de 500 millions de dollars de recettes fiscales. Et alors eux, ils ont le droit, parce que c'est un système fédéral, c'est pas comme nous où c'est jacobin, où il faut passer par une modification de la Constitution, on peut pas faire de fléchage fiscal direct. Eux, ils ont le droit de consacrer une partie de ce budget-là à ce qu'eux appellent les offres sociales. Bon, c'est très, dame charité, machin et tout, mais en tout cas, l'idée est pas mauvaise, parce que je vais aller plus loin en te citant l'exemple de New York qui lui aussi va encore plus loin dans ce idée-là. Mais en tout cas, eux, ils consacrent une partie du budget à ça. Donc eux, 500 millions de dollars, ils en consacrent un quart à la rénovation des écoles au Colorado. Le comté de Pueblo, qui est à l'intérieur du Colorado, a dégagé 400 000 dollars sur une année d'exercice, de vente du cannabis. Et c'est servi, alors je ne sais pas comment ils ont fait ça, par décret, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont dégagé une partie de ce budget-là pour offrir des bourses aux jeunes étudiants pauvres de qui habitaient le comté. Et comme c'est limitrophe avec le Mexique, etc. etc. Donc, vous comprenez qu'à mon avis, voilà, il y a une communauté de Latinos qui en avait besoin. Donc, l'idée, elle est là. À New York, alors ceux qui sont allés à Harlem dans les années 80, peut-être que Jean-Marc l'a été, et d'autres se rappellent d'un endroit complètement glauque quand même. Hein. Dans ce qu'on en voit dans le cinéma, dans les séries, ça ne te donne pas envie d'y aller. Je pense que TripAdvisor, c'est note zéro. Mais aujourd'hui, tous ceux qui retournent, ça a complètement changé parce que l'économie du cannabis commence à faire ses effets, y compris en termes de retour des services publics. Et surtout, eux, ils ont eu une idée supplémentaire. Et ils vont encore plus loin, au risque de choquer, pour te dire à quel point on est en retard dans le débat français. Eux, à New York, ils privilégient les candidatures de celles et ceux qui déposent un dossier pour ouvrir un commerce de vente de cannabis. Uniquement, alors c'est alors, pas uniquement, mais en tout cas, sont prioritaires celles et ceux qui ont un casier judiciaire lié à la vente de stupéfiants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à New York, alors il y a une grosse communauté afro-américaine, et donc ils savent évidemment qu'il y aura un rééquilibrage par rapport à ça. Donc c'est ça l'idée de la légalisation sociale. Pas de la même manière, parce que moi je le dis toujours, et Jean-Marc, c'est pas pour te flatter, mais ta question elle est hyper importante, parce que tu es déjà dans le vrai débat actuel, c'est pas est-ce qu'on va légaliser ou pas, je sais pas comment on va continuer. C'est surtout quel modèle, exactement ouais. Le modèle économique. Voilà, c'est est-ce qu'on va faire une légalisation libérale ou est-ce qu'on va faire une légalisation qui prenne en compte quand même un petit peu l'héritage culturel historique de nos quartiers, qui, à mon avis, ont là une opportunité à saisir en termes de développement structurel.
Peut-être justement nous parler des modèles portugais ou je sais pas.
Le modèle portugais c'est pas mon préféré parce que je te dis eux ils sont sur une dépénalisation. Ils sont sur une dépénalisation. Non mais c'est intéressant de les citer. Ça fait partie de ceux que je cite dans le livre. J'en cite trois principaux. C'est le modèle portugais qui est une dépénalisation. Alors avec des effets avec des résultats en ce qui concerne la en termes de santé publique, qui sont extraordinaires. Hein. Ça, on ne peut pas le relever. Hein. Les problèmes d'addiction, c'est plus aussi aigu que ce qui est en train de nous arriver, nous, en France, notamment sur la tranche des 15-25 ans. Hein. C'est sans commune mesure. Il y a le modèle semi-libéral canadien. Qui l'ont fait au moment où Justin Trudeau a gagné son élection, donc ils l'ont légalisé. Et alors eux aussi un gros volet sur la santé publique, mais bon une modélisation ultra libérale avec des grosses marques qui commencent à s'intéresser énormément. Alors je sais même pas si à l'heure où je vous parle c'est pas déjà fait, mais il y a des gros contrats par exemple avec Pepsi ou d'autres géants de l'agroalimentaire états-uniens, et ça c'est des modèles que je crée énormément. Celui qui alors pour le coup oui c'est la vision romantique que j'ai, mais en tout cas celui qui me plaît le plus c'est le modèle uruguayen, sachant que de toute façon on pourra pas l'appliquer en France parce que là-bas il y a une relation entre la filière agricole et la consommation de drogue qui est beaucoup plus c'est un vrai circuit court pour le coup. Alors moi j'imagine pas, même si peut-être qu'un jour sur le massif de l'Étoile on fera pousser de la skunk, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas un modèle qu'on peut mettre en place très rapidement. Mais le modèle uruguayen, eux ils passent par la vente dans des pharmacies, on a le droit d'avoir des de cultiver des plants, je crois que c'est 5-6 plants par personne. Alors toujours pareil, que ce soit le modèle uruguayen, que le européen. À chaque fois qu'il y a eu des légalisations, les gens se disent « Ouais, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens vont pouvoir consommer ou avoir des kilos de produits avec eux ?» En fait, pas du tout. Comme c'est contrôlé, vous avez le droit à tant de grammes par mois. Je crois qu'au Canada, c'est 30 ou 40 grammes. Ouais. En Uruguay, pareil.
Comment ça se fait aux États-Unis pour le cannabis thérapeutique en
exact.
Fait.
Bah, le cannabis thérapeutique, je crois qu'il est légalisé dans encore plus d'États. Il y a 33 États qui légalisent ce qu'ils appellent l'usage ludique, l'usage récréatif, pardon. J'ai pas froissé mes amis bobos. L'usage récréatif du cannabis et sur le jet thérapeutique, ça fait très très longtemps qu'ils l'utilisent dans leur pharmacopée. Il y a qu'en France où c'est l'année dernière qu'ils ont commencé à autoriser.
Comment tu comprends cette résistance de la classe politique quasi unanime de pas ouvrir un débat sur une problématique aussi importante.
Juste, c'est en lien avec ce que tu dis, la question que tu poses, c'est à savoir, est-ce que si le cannabis est récupéré au niveau de la distribution, est-ce qu'il n'y aura pas en remplacement qu'il puisse y avoir les drogues de synthèse qui sont encore beaucoup plus dangereuses parce qu'il y a le circuit de distribution qui est celle des dealers, des autres. Il faudra bien qu'ils puissent trouver une source de ressources aussi nouvelle.
Alors ma grille de lecture reste marxiste, mais on va faire du capitalisme de bas étage. En réalité, quand on légalise, il ne faut pas faire l'erreur qu'a fait l'Uruguay entre 2014 et 2017. Eux, ils sont partis, j'en parle dans le livre, du rêve qu'avait fait leur ancien président, Pepe Mujica, qui lui avait été emprisonné dans la jungle par des narcotrafiquants, etc., qui en a fait presque une affaire personnelle de ce style-là. Et en réalité, quand tu légalises, maintenant, on a suffisamment de recul pour comprendre que si on veut assécher le marché noir, il faut juste appliquer une politique tarifaire adéquate, tout simplement. Parce que, évidemment, c'est de ça qu'on parle. Le consommateur moyen, Si tu lui proposes ta baratte de shit à 70 euros, alors qu'il peut la toucher à 20 euros à la busserine, il va continuer à aller à la busserine. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si tu mets en place une politique tarifaire agressive, en tout cas déjà pour démarrer, tu les assèches. Tu les achètes et les gens rentrent dans le rang et se disent bon ben tout, écoute, si l'État nous permet de passer de quelque chose d'illicite à quelque chose de licite, c'est le moment de le faire. Et je crois que la plupart vivent des vies, certes, où ils gagnent. Enfin, en tout cas, je parle des gros dealers, hein, je parle pas des prolos du shit, hein, parce que ça aussi, je voudrais quand même qu'on balaye d'un revers de main ces idées que les choufs touchent 100, 200, 300 euros. Non, non, il faut arrêter le délire. C'est vraiment des prolos, ils sont exploités. Le modèle économique des spots est un modèle capitaliste très agressif.
Maintenant, on a entre guillemets de la main-d'œuvre nigériane, donc je pense que ça s'est encore détérioré au niveau des conditions de travail, si on peut s'exprimer de la sorte.
Donc voilà, donc faut sortir de cette idée que soi-disant on gagne des 10 et des 1000 en étant choufre, en étant même charbonneur. Non, il y a les grossistes et les semi-grossistes qui gagnent de l'argent, les autres sont dans de l'économie de survie. Mais bon, donc pour finir sur l'Uruguay, ils avaient commis cette erreur de ne pas appliquer une politique tarifaire et ils sont revenus à partir de 2017. Ils ont remis en place, ils avaient réussi à baisser le niveau de violence parce que c'était toute proportion regardée, ça n'a rien à voir avec nous. C'était vraiment des gros cartels comme en Colombie, etc., etc., qui contrôlaient ces trucs-là. Comme il n'y avait plus d'argent, les types se sont convertis en agriculteurs, etc., etc. Et puis bon, chacun est devenu plus ou moins, entre guillemets, bon citoyen. Donc aujourd'hui, ce modèle-là fonctionne plutôt pas mal. Moi, c'est celui qui requiert mon affection. Pour autant, je pense que le débat avance, hein. Moi, au début, j'avais du mal à discuter avec les gens de la filière du CBD. Oui, parce que moi aussi j'ai ma part de conneries, et puis surtout l'idée que quand je les voyais arriver, je voyais capitaine capitaliste qui arrivait à toute berzingue et qui allait entre guillemets transformer nos quartiers en espèce de start-up du cannabis. C'est pas le modèle que moi je prône. Quand on prône avec mes camarades la légalisation sociale, encore une fois, il faut trouver un biais. C'est vrai que la filière du CBD est tellement avancée maintenant. Je ne sais pas combien il y a de centaines ou de milliers de points de vente, et que forcément, quand on va commencer à parler de projets de loi qui auront la possibilité de passer, parce qu'il y a déjà des projets de loi qui ont été déposés, notamment pendant la mandature précédente, en 2021, par le groupe EFI, hein, sur une loi pour la légalisation du cannabis, avec un volet social, et qui n'est pas passé parce que bon, voilà, ils étaient 17. Mais bon, cette idée-là, tu me posais la question de savoir pourquoi. Je dis, moi je crois qu'il y a deux problématiques. Une sur laquelle on sera tous d'accord. La deuxième qui est un peu plus provocatrice. La première, c'est le tabou moral. On n'en sort pas, hein. Je le dis de façon caricaturale. Le hacking, c'est pas bien Gérard, mais on en est encore là. Regardez ce sketch de Coluche, c'est un type qui est bourré, qui explique à son fils qu'il ne faut pas se droguer. La société française, elle en est là, réellement. La deuxième, plus polémique, plus de l'ordre du ressenti, mais quelque part, on est obligé de se poser la question quand on voit l'histoire de la propagation et puis surtout les réflexes qui sont des réflexes quasi millénaires. Moi, je dis que le problème vient du vieux dans la montagne. Alors, le vieux dans la montagne, c'est pendant les croisades. C'est le leader de la secte des assassins, etc., etc. Exactement. Et je crois que le problème culturel, il a été ramené par les croisés. Ils ont été tellement effarouchés, effrayés. Alors attendez, moi je veux bien être effrayé par les sectaires de kamikazes de la secte des assassins. J'ai envie de leur dire que le siège et la prise de Saint-Jean d'Acre, avec des femmes qui étaient éventrées parce qu'on recherchait dedans s'ils avaient de l'or caché, etc., etc., c'est encore plus effrayant que ça. Mais en tout cas, cette peur atavique, elle est transmise. On retrouve ça avec la réaction de Bonaparte, pas encore Napoléon, pendant la campagne d'Égypte, qui lui, parce que les poilus, hein, on a l'image, ouais, les poilus, machin, ils fumaient de la ganja, les poilus. Quand ils sont allés en Égypte, ils se sont bien régalés. Ils en ont ramené avec eux, alors que Napoléon était absolument contre. Hein, au contraire, ils incitaient à boire du. Alors lui, il le disait sans complexe et sans cette espèce de filtre qu'on a aujourd'hui sur la bien-pensance, etc. Mais la réalité, c'est qu'il disait non, buvez du bon ou du mauvais rouge parce que c'est de chez nous. Alors que le hashish, ça a cette odeur, cette connotation étrangère, etc., etc. Et donc, en gros, encore une fois, on est dans une forme de grand remplacement, mais du côté de la drogue. Pardon de le dire comme ça, mais oui, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce postulat-là.
Oui. Merci beaucoup, Mohamed. Oui,
effectivement.
Le débat est très intéressant.
Mais l'heure est partie, ça tourne. Et que peut-être il y a des questions qui peuvent se poser, c'est à partir de ce débat, c'est où trouver, par exemple, cet ouvrage, Légalise et déjà, et comment l'as-tu sorti, et on les retrouve dans quelle rubrique, essai, roman, et à quel endroit, et si tu l'as sorti à compte d'auteur, comment aider à ce que ça puisse paraître, parce que c'est un bon support à différents débats.
Non, ce n'est pas un compte d'auteur, j'ai été publié par les éditions Transit, hein, la courte échelle. Je remercie énormément
Alain et Muriel.
Alors, on m'a dit oui. Alors, j'avais la possibilité de voir avec d'autres éditeurs, etc. Mais moi, ce que je recherchais, c'était la liberté totale. C'est-à-dire que j'ai eu une discussion. Alors, pour le coup, là, je parle en auteur. Zama, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, moi, je ne voulais pas qu'on m'explique ce qu'il fallait que je dise, comment je le dire, etc. Et avec eux, franchement, les discussions étaient à bâton rompu. On a fait... ce qu'on avait à faire et donc on peut le retrouver à Transit, à la librairie Transit, effectivement, c'est rue de la République ou boulevard de la République, je crois. Boulevard de la République. Sinon, on peut le commander dans toutes les... Ouais, boulevard de la Libération. Boulevard de la Libération. Exactement. Sinon, on peut le trouver et le commander dans toutes les bonnes librairies, à Montpetit, Gibert, je sais pas, partout. Pas sur Amazon parce que ça a été un truc. Ouais, c'est un choix. Moi, je dis quand ils paieront. Ils paieront leurs impôts en France, mais surtout leurs employés de manière digne, ben, peut-être qu'on révisera le truc. Bon, c'est pas ça qui va leur faire perdre des millions, hein, mais voilà.
Tu rappelles un peu l'intitulé, Lily, de livre, bon,
et le coût.
Alors, ce livre, qui est donc catégorisé d'essai, comme le dit Mohamed, s'intitule Legalize It, est disponible chez tous les bons libraires, notamment la librairie Transit. Et sincèrement, c'est un coût très abordable, puisque c'est 10 euros, et c'est un très bon support ben justement pour ouvrir le débat et peut-être sensibiliser nos jeunes. Je suis désolée, on court un petit peu de temps, et j'aimerais vous faire quand même réagir à ce fameux débat. Donc ça dure une petite dizaine de minutes. Les auditeurs, j'espère que vous allez rester avec nous pour entendre un petit peu les réponses aussi de Mohamed, les réactions de Mohamed. Sidi, le petit podcast, s'il te plaît.
Et brisons nos entraves, debout, debout, debout.
Que vous soyez venus en nombre, toujours dans la semaine, vous savez, des droits de la femme. C'est une semaine qui est très importante pour nous tous. Alors je voulais vous remercier. Remercier de votre présence, de participer à un débat qui est important, la place de la femme dans le Grand Saint-Barthélemy. Donc merci à vous aussi d'animer ce débat. C'est un combat que nous menons maintenant depuis des années, un combat quotidien. On sait qu'il y a eu énormément d'avancées dans ce domaine, mais malheureusement, les inégalités et les discriminations sont toujours présentes. Donc il faut que nous continuions tous ensemble pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalités aujourd'hui. Donc merci. Merci de porter ce sujet. Merci aussi pour ce que vous faites au quotidien, parce que je sais que ce n'est pas simple. Je dis toujours, une femme doit se battre deux fois plus pour réussir. Une femme a deux journées dans une même journée. On a la journée au travail et puis quand on rentre à la maison aussi, puisque généralement, ce sont nous, mesdames, qui tenons, on va dire, un petit peu le foyer, on s'occupe des enfants, on fait à manger. Donc les journées sont très longues. Voilà. Donc bravo à vous pour votre courage, pour votre grand cœur aussi, votre sourire. Donc voilà, c'est important effectivement de pouvoir mettre à l'honneur les femmes. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette semaine. Je pense au comité Maméga. Merci pour la belle exposition que vous nous offrez à la mairie de secteur. Merci également d'animer les débats. Et on a bien évidemment tous une pensée pour Françoise Héga, qui est un exemple, un modèle pour nous tous. Une dame qui s'est battue sur ces sujets il y a des années, dans un contexte qui n'était pas simple. Il ne faut pas oublier ce qu'elle a fait et surtout continuer le combat qu'elle a mené. Voilà, et merci à l'ECB qui nous accueille dans ce très bel endroit. On a la chance d'avoir une magnifique scène dans le quartier de la Busserine. Donc merci à toute l'équipe de l'ECB qui fait énormément de choses et qui nous offre une très belle programmation tout au long de l'année. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore de votre présence.
On va démarrer cette table ronde avec une première intervention de Karima Berriche sur replacer en gros le combat des femmes dans le Grand Saint-Barthélemy autour des événements qui ont marqué ce territoire. Et ensuite, un choix a été fait, plutôt que ce soit les personnes qui sont connues pour prendre souvent la parole, de témoigner dans ce débat. Il y a eu deux rencontres entre des femmes qui habitent, qui vivent sur le Grand Saint-Barthélemy, qui sont engagées à leur niveau individuel et collectif, et qui ont accepté, suite à ces ateliers et ces rencontres, de témoigner au nom de tout le groupe, parce qu'elles étaient huit, de venir témoigner ici de tout ce qui, les questions qui sous-tendent l'engagement. Voilà. Donc, premier temps, je donne la parole à Karima.
Je vais démarrer par une introduction assez générale pour rendre compte de ces grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire du Grand Saint-Barthélemy, puisqu'on va surtout s'intéresser à la deuxième partie, un peu plus longue, celle qu'a présentée Anne-Marie, qui rend compte effectivement de ces engagements de femmes souvent dans l'ombre, mais qui participent au quotidien, au bien collectif et au bien-être de ce territoire. Alors sûrement, on s'en excuse par avance, nous avons oublié sûrement de citer des personnes remarquables. Nous vous invitons lors de l'échange avec la salle de prendre la parole pour rappeler leurs noms et combats. Donc n'hésitez pas tout à l'heure dans le cadre de l'échange débat de citer ces dames et ces femmes qui ont marqué l'histoire aussi du Grand Saint-Barthélemy. Alors, les grandes figures féminines du Grand Saint-Barthélemy, je voulais d'abord poser le contexte de ce territoire, bien avant que les tours et les barres soient construites. Donc, avant la construction de nos cités, ce territoire est alors composé de vastes campagnes et du plus grand bidonville de Marseille, qui s'étendait en lieu et place de Fontvert jusqu'à la Benosse, et le long de la voie rapide Salvatore Allende, plus de 6000 personnes s'entassent dans ces baraquements, essentiellement des familles algériennes. Les pouvoirs publics vont raser le bidonville et construire plusieurs centaines de logements, de Picon jusqu'au Mail et des Flamand-Iris jusqu'à Fontvert. Les premières familles qui s'installent sont ravies dans un premier temps, mais très vite, le sentiment qui prédomine est celui d'un immense dortoir. En effet, dans la hâte, les pouvoirs publics vont faire l'impasse sur des équipements nécessaires à la vie quotidienne des nouveaux résidents. Et c'est là où démarre la fameuse mobilisation, ou ce qu'on appelle, nous, l'histoire du Grand Saint-Barthélemy. Donc, je l'ai fait par séquence temporelle historique. Donc, des années 60 jusqu'à fin des années 70. L'élément déclencheur de la mobilisation des habitants mené par un quatuor féminin désigné sous le vocable des quatre mousquetaires, Mesdames Égard, Santofanti, Vinotti, Rigoli, et la construction des écoles aux normes nationales, alors qu'au regard de la démographie locale, il aurait fallu doubler le nombre de classes. Ainsi, des enfants allaient à l'école le matin et d'autres l'après-midi. Elles n'auront, ces dames, de cesse d'interpeller les pouvoirs publics jusqu'à la création du groupe scolaire de la Busserine. Il faut savoir qu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel des ménages habitant ce territoire sont issus de ce que nous appelions à l'époque, dans les années 50-60, la classe ouvrière et la petite classe moyenne, qui mettaient effectivement dans l'école de la République une possibilité d'émancipation et d'ascension sociale pour leurs enfants. Mais d'autres revendications seront formulées sous la houlette de ce quatuor. Les équipements sociaux, culturels et sportifs, le premier bus, le 33, etc., etc. Je passe très vite, vous verrez, sur la temporalité historique, parce que, comme je vous l'ai dit, l'essentiel, c'est ce que vont nous dire ces dames tout à l'heure. Les années 80, fin 90, une nouvelle génération de femmes apparaît qui va s'inscrire dans la lignée de leurs aînés. C'est un double drame qui sera à l'origine de leur engagement. L'assassinat de Lawari Ben Mohamed le 18 octobre 1980 par un policier, Peu après, c'est un autre jeune homme, Zaher Boudjelal, qui sera assassiné par un raciste. Une vaste émotion et colère traversent toutes les cités. Les femmes seront à nouveau à l'avant pour réclamer justice. Citons Madame Askri, Yamina Bencheni, Hanifa Tagelment Boudjelal. D'autres s'engagent dans l'associatif comme outil d'éducation populaire et d'émancipation sociale. Nous pensons à Bania Mejbar qui choisira le cinéma et Zoubida Meghenni qui fondera avec d'autres femmes l'association Sheba, la bien nommée, qui est effectivement dédiée aux femmes du quartier. Nous pensons aussi à Marie-Geneviève Martin et Anne-Marie Tagawa qui ont su conjuguer investissement professionnel et fort engagement auprès de leur public. Les années 2000 à aujourd'hui, une nouvelle génération de femmes prend place au sein du Grand Saint-Barthélemy. Je pense à Hélène Mille, à Rania Yayaoui, qui s'investissent bénévolement dans la promotion de la culture urbaine, l'une au sein des Baxter, l'autre au sein d'Alafou. Le rap et le slam comme outil privilégié par une jeunesse en mal-être qui décrit dans ses textes le racisme, la présence des trafics, la cité, etc. D'autres s'investiront dans le combat pour un meilleur cadre de vie, d'autant que de vastes chantiers sont à l'œuvre dans ces territoires. Citons les programmes de rénovation urbaine des Flamants Iris, Picon, Busserine, Saint-Barthélemy 3, La Benosse et depuis peu, Fonds Vert. Nous pensons évidemment à l'engagement sur ces questions de Fatima Mostefaoui pour les Flamands, Zora Berich pour Saint-Barthélemy 3, Nora Braya pour Fonds Vert, Wassila Tir pour La Benosse. Mais aussi, n'oublions pas, Madame Delmas du Conseil syndical du Mail qui s'est fortement engagée lors du plan de sauvegarde de la copropriété. D'autres associations de femmes sont créées. Nous pensons à Drifa Douaflia de l'association Elle Famille Fonds Vert et Farida Gawa de l'association Vision de Femmes de Picon. La question scolaire s'invitera à nouveau en 2015 lors de la livraison du groupe scolaire Busserine. Très vite, parents d'élèves et enseignants.
Nous interrompons le débat qui a eu lieu le 9 mars à l'espace culturel Busserine, mais c'est pour la bonne cause. Viennent de nous rejoindre autour de la table Nicolas Dupuis-Delhomme, donc directeur de l'espace culturel Busserine, et Mousse, du duo Mousse et Hakim, qui s'appelait anciennement, qui avait plusieurs noms, mais peut-être le plus connu pour moi, c'est Zebda.
Oui, c'est le plus connu, oui. Voilà.
Donc, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'engagement. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, puisque Zebda est un groupe engagé aussi. Donc,
oui, moi, je m'appelle Mustapha Moukrane. Je suis donc chanteur du groupe Zebda, de Motivé. Puis là, en ce moment, je suis en tournée avec Moufa Hakim. On a ce duo qui s'appelle Moussa Hakim. On a grandi dans le quartier des Isards à Toulouse. C'est les quartiers nord de Toulouse aussi. Donc, on a toujours eu une fibre vis-à-vis de notre quartier. C'est une fibre un peu comme ça de quête d'égalité, on va dire ça comme ça. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a commencé à faire de la musique, en fait. L'histoire de Zebda, c'est pas le groupe de musique qui a créé l'association, c'est l'association du quartier qui a fait exister le groupe Zebda. Nous, on était gamins, on allait dans l'association, en bas, au quartier, donc on nous proposait du théâtre, de la musique, des fois de faire des petits films. Et c'est comme ça qu'on a eu un jour sur un film l'idée de dire, on va faire un groupe. Et on a fait naître le groupe Zebda comme ça. Et puis finalement, avec tout ce qu'on a connu avec Zebda, puisqu'on a quand même eu un sacré parcours, mais on est toujours resté comme ça en lien avec cette idée que faut être présent, faut faire de la proposition, et que même si on n'est pas dans les... J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on habite sur le même palier qu'on a la même histoire, hein, ça, on le sait, parce que ça dépend des vies de famille qu'on a, on n'est pas tous... au même niveau, mais il y a des tas de possibilités et il faut toujours continuer à créer des fenêtres, des ouvertures. Et nous, on est la preuve vivante que ceux qui agissent dans le quartier ont des résultats. Enfin, nous, on est un peu côté un peu extrême, quelque part, mais la réalité, moi, j'aime bien dire ça. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas le groupe Zebda qui a créé l'association, c'est l'association qui a fait exister le groupe Zebda. J'avais 15 ans quand j'y allais à l'époque. J'étais un gamin, un minot, et voilà.
Non, j'ai vu que Mohamed voulait réagir, donc je le laisserai.
Non. Moi, j'étais déjà hyper content d'être là ce matin, parce que bon, là, c'est au lieu des luttes des quartiers populaires, hein, le comité Maméga. Alors, en plus, la cerise sur le gâteau, je me retrouve avec un de mes héros musicaux. Là. C'est bizarre. Là. Moi, j'ai toujours la musique dans la voiture. Avec... Merci pour l'erreur est humaine. Merci pour... Il n'y a pas d'arrangement. Merci pour tout ce parcours-là. Je veux dire, ouais.
Tu sais qu'il n'y a pas d'arrangement. C'est vraiment, évidemment, Marseille qui nous a apporté cette expression.
Non, mais surtout les messages. Hein, parce que c'est vrai que tu disais... on parlait de l'engagement juste avant que tu dises. Mais oui, si on parle de groupes engagés... en France, pardon de le dire, il n'y en a plus beaucoup, mais vous en faites définitivement partie. Et de par les messages que vous avez portés sur les quartiers populaires, sur la lutte contre les discriminations, le racisme, etc. etc. Donc, ouais, je suis comme une midinette, là, je suis hyper heureux. La Palestine, très oui, la Palestine, bien sûr.
Oui. C'est le point de départ.
Et en plus, c'est de la bonne musique.
C'est le point de départ. C'est impressionnant quand on demande quel a été le point de départ de votre engagement, c'est la question palestinienne. Parce que la question de la Hogra.
Oui, c'est vrai que nous, on a grandi dans l'appartement chez nos parents. Et notre père, Lahmo, il avait deux portraits dans le salon. C'était Ben Badis et Arafat. Voilà, donc voilà. Tu te construis comme ça, quoi. Donc après, c'est vrai que... moi, je dirais que... Alors, je dis ça parce qu'avec Groupe Zebda, la première pochette de notre album en 92, c'est un enfant palestinien de l'intifada. À l'époque, on est jeune, on ne se rend pas compte. On fait ça même presque naïvement en se disant c'est un symbole de résistance. On aurait pu, pour nous, c'était... Voilà, on pensait à l'Afrique du Sud, à l'époque à Mandela aussi. Pour nous, c'était similaire. Et on a compris et mesuré qu'on mettait les pieds dans un truc, il va falloir être prêt. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et le deuxième album qu'on a fait, c'est Le bruit et l'odeur.
Ah oui, Le bruit et l'odeur, bien sûr.
Suite au discours de Chirac, Le bruit et l'odeur. Il dit, alors j'ai une anecdote pour ça, c'est que je suis aussi présent sur le quartier Barbès à Paris, la Goutte d'Or Barbès. Je travaille sur une salle qui s'appelle Fleury Goutte d'Or, FGO Barbara. Et je fais des choses avec les gens du quartier, parce que c'est ma fibre, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Et je rencontre un jeune, un gars, parce qu'à l'époque, Chirac, quand il dit le discours du bruit et l'odeur, il le dit à Orléans en 1991. Oh, il a bu un coup, Jouya, il a bu une Corona, tout ça, mais il va dire le travailleur français devient fou. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, c'est normal que les gens soient racistes, en gros, donc inadmissible. Et en fait, il avait fait la visite du quartier de la Goutte d'Or Barbès avec le député Alain Juppé du Paris 18e. Chirac avait fait cette visite. Et donc, il arrivait dans un immeuble, il a senti une odeur africaine qui lui a déplu. Et je suis là il y a 6 mois. Je rencontre un jeune mec, une quarantaine d'années, Mams, il s'appelle, et il me dit, c'est toi le bruit l'odeur? J'ai dit oui. Il me dit, belle odeur, c'est ma mère. Elle avait fait du poisson séché. Et c'est vrai, même nous, on avait envie de vomir. Non mais, c'est dire comment c'est la petite histoire dans la grande, toujours. L'histoire des gens. Alors lui, il dit ça aujourd'hui. Allez, pour dire que c'est des fois, quand, nous, on est quand même, comme disait mon père, on est des Européens, quelque part. C'est-à-dire que quand on sentait certaines odeurs un peu fortes que cuisinait notre mère, ça nous dérangeait. Donc, ça veut dire quand même quelque chose. Et nous, on a fait le bruit et l'odeur et on a rencontré le gars. Il était très fier de me dire, c'est ma mère qui vous a fait faire un album. Ouais.
Je peux te poser une question, Moussa? Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'était l'engagement, hein, entre autres. Hein. Et moi, je commence à avoir un certain âge, ou un âge certain. Et dans ma tendre jeunesse, les groupes comme Zebda, il y en avait beaucoup qui étaient engagés. Tu vois, où on arrivait à organiser, notamment par exemple, par rapport à quelque chose qui, moi, me fait, non pas l'essentiel, mais en tout cas une grosse partie de mon engagement, c'est la lutte contre le racisme, le FN, le RN, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la fin des années 80 et 2023 pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus cette espèce d'indignation, y compris, alors pour le coup, dans les groupes, hein, dans la culture, etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux époques?
Alors, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir la réponse à cette grande question, hein, qui est une vraie grande question. Mais je pense en tout cas que nos combats ne sont pas dissociables de l'évolution du monde, c'est-à-dire notamment la révolution numérique et ce qui a pu se passer, des formes d'autonomie et d'indépendance qui se sont créées à d'autres niveaux, qui se font d'une autre manière, c'est-à-dire qu'en gros, les choses ont évolué de telle façon. Alors bon, d'abord, c'est toujours pareil. Le système libéral capitaliste, pour moi, essaie de formater et de créer cette injonction que si tu vas t'engager, tu vas te couper du public, donc tu vas avoir moins de... Tu vas te couper d'un certain public. Bon, c'est un peu des discours qui sont réels, présents. Et ensuite, je crois que aujourd'hui, 20 ans après, l'autonomie d'expression, en tout cas dans les milieux populaires, n'a jamais été aussi grande. En fait, nous, on a toujours pensé que ces questionnements, justement, nous, on a toujours cru que l'intégration, c'était du flanc, parce qu'on a toujours pensé que c'est inexorable et que ça va se faire, qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire, c'est pour ça que le combat pour l'égalité est pour nous important. La question de l'exclusion, c'est eux qui l'apportent comme quelque chose qui les effraie. Nous, on pense que ça va se faire. Et la preuve que ça se fait, moi, je dis souvent, quand j'étais enfant, moi, adolescent, les stars de l'industrie, les tenants de l'industrie musicale, et je ne parle pas de goûts musicaux, je parle vraiment de business, quoi, d'industrie. Ben, c'était Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, France Gall, Michel Thor, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, c'est qui? C'est Sopra, c'est Jul, c'est Gims, c'est PNL. Donc, c'est que des gens de quartier. Non, il faut qu'on regarde ça comme un signe. Alors, bon, on n'est pas obligé d'être absolument optimiste, mais enfin, quand même, quand les réalités, quand les victoires sont là, il faut les regarder. C'est-à-dire le fait que, enfin, pour moi, donc, alors, ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais ça dit un petit peu que les milieux populaires, du coup, ben, quand il y a l'expression culturelle, artistique, ben, c'est plutôt, il y a plutôt une quête d'ascenseur social, parce que par ailleurs, l'ascenseur social joue pas son rôle, est déficitaire de plus en plus. Ça, c'est la réalité. Donc du coup, ben, c'est des façons d'accéder. Et moi, je crois que pour créer de l'engagement, encore plus, il faut travailler la proximité, les gens, la solidarité. Quoi.
Oui, il me semble que dans le milieu rap, il y a quand même, tu dis, ces garçons et ces femmes issus des quartiers populaires, pour un certain nombre d'entre eux, ont des messages politiques forts. Oui. Sauf qu'ils ne sont pas relayés par les médias dominants. Contrairement à Jean-Jacques Goldman et à d'autres. Donc, c'est toujours mis à l'ombre. Mais il y a une vraie culture antiraciste parmi les chanteurs rap. Après, moi, la question que je voulais te poser, c'est Zebda, parce que moi, je suis partie d'une génération qui a haï le mot beurre. Mmh. Alors, est-ce que c'était par ricochet en disant, puisqu'on nous appelle beurre, bon, on va prendre le mot Zebda?
Exactement, c'était pour se moquer de ça. En plus, nous, on est Toulousains, on ne parle pas verlan.
Ben ouais, à Marseille,
oui.
Encore moins.
Encore moins, oui. Donc, nous, quand on dit, ils nous appellent le beurre. Donc, nous, ça nous... Bon, ça fait rebeu, arabe, rebeu, beurre. Donc, c'était une façon de nous désigner, nous, les enfants d'immigration maghrébine, postcoloniale. Une façon de nous désigner. Évidemment que c'est une façon de ne pas nous dire français. Moi, je le pense. Mais nous, quand on était plus jeunes, quand c'est arrivé, donc on avait à peu près 16-17 ans à cette époque-là, ils nous appellent le beurre. Donc on s'est dit, on va s'appeler Zebda. On trouvait ça rigolo. En même temps, je pense que, voilà, nous, par contre, on n'a jamais détesté à ce point. C'est pas grave. C'est-à-dire que les mots, on doit se battre pour le langage, on doit le faire exister, mais les mots, on doit les inventer, nous, quoi. C'est-à-dire les trouver et les faire. Là, c'est les Parisiens qui ont inventé ce mot, en l'occurrence, qui peuvent être des banlieusards comme nous, enfin, ou des gens de quartier comme nous. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, notre exemple... Mais de toute façon, c'est une série de ça. Il y a le mot beurre, il y a le mot intégration... Il y a, par exemple, un truc en ce moment qui est fou, c'est que pour nous désigner, on nous dit « issu de la diversité ». C'est-à-dire qu'on suppose que la diversité, ce serait tout le monde sauf les Blancs. C'est intéressant. La diversité, ou c'est tout le monde, ou c'est personne. C'est le mot qui nous définit tous. Alors, si on dit que moi, je suis issu, toi aussi, tu es issu de la diversité en réalité. Forcément.
Je te remercie, Mousse. Merci à Nicolas de t'avoir mené jusqu'à nous. Et on va peut-être passer la parole justement à Nicolas. Comment est-ce que tu as pensé à Mousse et à Kim?
C'est pas moi, c'est vraiment... c'est venu de l'équipe, je dirais. Peut-être c'est José, le régisseur son, qui a évoqué en premier. Les décisions, moi je suis très d'une mentalité coopérative, je dirais, donc les décisions qui se prennent en matière de proposition de programmation, parce que même nous n'avons pas le dernier mot, c'est la mairie de secteur qui a le dernier mot, puisque l'espace culturel Busserine dépend de la mairie de secteur. Donc, mais je suis d'un jeu très collectif et donc c'est l'ensemble de l'équipe qui a décidé et que j'appuie entièrement. Voilà, donc ce soir à l'espace culturel Busserine, 20h30. Il reste encore un petit peu de place, donc c'est si des gens veulent encore venir.
Et elles sont gratuites.
Oui, tout à fait. Merci Jean-Pierre qui me fait rappeler que les spectacles à l'espace culturel Busserine sont gratuits.
Il reste encore des places, Nicolas, c'est ce que tu disais.
Oui, ouais, il reste encore quelques
places. Donc vous pouvez réserver au 04 91 11 19. Non, c'est pas le bon numéro,
c'est
ça.
Plus le
04
bon.
13 95 94 85 00. Je répète, puisque j'ai bugué. 04 13 94 85 00. Jean-Pierre, je te remercie de ton intervention, mais ça fait plus d'un an que je fais les échos, donc je sais. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu nous voir. Merci Nicolas aussi de nous avoir permis de rencontrer Mousse.
Merci pour votre accueil.
À ce soir. Et pour en revenir au podcast, ils seront disponibles sur le site du comité Maméga. Bon. Allez, mais t'as un petit morceau de Zebda ? Allez, on vous joue un petit morceau de Zebda.
Ouais, partisans, ouvriers, paysans.
Je remercie déjà l'équipe de Radio Galère de nous avoir permis de rester aussi longtemps sur les ondes, parce qu'il y a déjà un quart d'heure que nous aurons dû rendre l'antenne. Merci Mohamed d'être venu nous rencontrer, en espérant qu'on se recroisera peut-être au fil des échos, ou certainement en dehors de ça. Merci Karima pour être toujours présente à mes côtés et m'épauler. Jean-Marc, n'en parlons pas. Et donc on arrive à la dernière partie de l'émission, qui est celle des communiqués de presse. Je sais que Mohamed, tu dois y aller. Peut-être que tu veux nous dire quelques
mots. Non, juste un grand merci. On a fini par le motiver de Zebda. Motivation, engagement. Encore une fois, occupez-vous de politique si vous ne voulez pas que la politique s'occupe de vous.
Merci Mohamed. Donc sur les communiqués de presse, donc, le 31 mars, donc, ce soir, au ZEF, qu'on connaît mieux sous le nom de Théâtre du Merlan. On ne dira pas ZEF, parce qu'un de mes collègues disait que ZEF, on sait que c'est le nom d'un vent, et il disait que c'était symbole de... Le ZEF, c'était symbole de quoi ? De contrariété. Donc, on n'est pas contrarié. Ce soir aura lieu un spectacle intitulé People United, qui est un atelier de danse animé par la compagnie Joanne Layton et Maureen Nass. Vous pouvez réserver au 04 91 11 19 24. Toujours ce soir, on l'a annoncé mais je le redis, à l'espace culturel Busserine aura lieu le concert de Mousse et Hakim, les deux frangins du groupe Zebda, de l'association Zebda, qui donnent un concert au Daron de la Garonne. Les réservations sont encore possibles au 04 13 94 85 00. Ensuite, du 31 mars au 7 avril, à la librairie Transit, la librairie Transit sera présente lors du printemps du film Engagé, au 51 boulevard de la Libération, dans le 1er arrondissement de Marseille. Pour sa 16e édition parrainée par Régis Sauder, le printemps du film Engagé est à Marseille du 31 mars au 7 avril. Je sais que je me répète, mais je suis désolée. Donc le thème est « Quel récit pour demain ?» Donc c'est une semaine de films documentaires et de fiction, précédée d'un court-métrage et suivie d'un débat. Voilà, en collaboration étroite avec les salles du Gyptis, des variétés, du Vidéodrome 2, la Casa Consola, l'Alcazar, la Baleine Marseille, avec la complicité de l'Université Populaire Marseille Métropole, du Ravi, des Amis du Monde Diplomatique, d'Attaque, France, Amérique Latine et bien d'autres. Le 6 avril à 19h, à l'espace Jean Ferrat, 89 avenue du 8 mai 1994, à Septèmes-les-Vallons, à l'occasion du centre du centenaire, oui, c'est la fatigue, on sent que je n'arrive plus à lire, du centenaire de l'arrivée de l'auteur Claude Maquet en France, le spectacle Kay, Lettre à un poète disparu, s'inscrit dans l'année Maquet, marrainée par Christiane Taubira. Ce spectacle, sorti de résidence, est pluridisciplinaire et mêle jazz, lecture et images avec Lamine Diagne, aux lectures et aux slams, porte sur l'auteur Claude Maquet, pilier de la Harlem Renaissance, ayant vécu à Marseille 10 ans. Sur fond de jazz, les textes originaux de Lamine Diagne répondent à ceux de Maquet sur le racisme, l'immigration ou encore Marseille, sa dimension multiculturelle, et questionnent l'héritage de cet auteur majeur. Cette sortie de résidence marque une étape importante dans cette création avant la première du spectacle le 8 juillet prochain, dans le cadre du Festival Marseille Jazz des 5 continents. Spectacle en coproduction avec Prodigarts, compagnie de l'Enel et à cette production. Toujours autour de Claude Maquet, cette fois, le 15 avril, de 14h à 18h, aura lieu à la bibliothèque du Merlan, qui se trouve avenue Rému, à deux pas de là où nous sommes, le comité Maméga. En partenariat avec le comité Maméga, les associations Mamonté, PlisFos 13, le collectif Claude Maquet, la maison d'édition Héliotropisme et à cette production. On vous invite à une rencontre littéraire autour du roman Banjo de Claude Maquet et la trame se déroulant à Marseille et plus précisément dans un quartier du Vieux-Port que vous n'avez pas eu l'occasion de connaître, qui a été détruit par les nazis en janvier 1943. Mais peut-être que je me trompe, il y a des gens qui ont peut-être eu l'occasion de connaître, des aînés, et qui s'en rappellent peut-être encore. Donc si c'est le cas, ce sera intéressant que vous veniez nous rencontrer, donc samedi 15 avril. Donc au programme, présentation de l'auteur, réinscription de Banjo dans le Vieux-Port d'antan, café littéraire et lecture d'extraits de Banjo, présentation de la nouvelle maison d'édition marseillaise Héliotropisme, à l'origine de la publication de Romance in Marseille, de Claude Maquet toujours, et projection du film réalisé par à cette production, Claude Maquet de Harlem à Marseille. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du centenaire de l'arrivée de Claude Maquet à Marseille. Pour toute information, Vous pouvez contacter le comité Mamega au 09 54 38 87 44 ou encore la bibliothèque municipale du Merlan au 04 13 94 82 20. Une dernière information qui concerne une association qu'on connaît assez bien sur les territoires, puisque c'est l'association 7, Santé Environnement pour tous, donc, qui est dans une nouvelle phase du développement de ses actions sur le territoire. Donc il se peut que vous soyez amené à rencontrer ces animateurs santé autour de tentes. Il est important d'aller les voir. Leur mission est elles ont évolué, puisque là, ça concerne tout ce qui est rappel vaccinal et dépistage du cancer colorectal, cancer du sein et de l'utérus.
Merci Lily, merci Sidi, merci Daniel, toute l'équipe de Radio Galère. L'émission sera rediffusée demain à 14h05 et je rappelle que nous nous excusons de ne pas avoir pu diffuser le reportage
en intégralité,
mais nous espérons pouvoir le diffuser de façon tout à fait intégrale que vous pourrez retrouver sur le site de Mamega, vivreensemble.org, n'est-ce pas Lily?
Et avant de laisser les ondes de Radio Galère, un dernier petit mot pour remercier ceux et celles qui rendent possibles les échos du Grand Saint-Barthélemy, naturellement l'équipe, comme le soulignait Jean-Marc, mais également ceux qui nous soutiennent financièrement, la NCT et la Métropole. Rendez-vous le 27 avril prochain pour la prochaine émission.
Oui, et nous espérons que nous ferons une émission avec les collègues du collectif pour les 40 ans de la marche pour l'égalité.
Cela ne tient qu'à toi, Jean-Marc, et aux collègues.
Il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup et à bientôt.